Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
T'as mis tes mocassins exprès pour faire du bruit ?
Voilà, pour faire du bruit en douceur.
Salut Yann.
Salut Baptiste. Bienvenue au musée. Ce beau musée.
Au musée de Die et du Diwa. Tu vas nous parler de ce que tu y fais ?
Ben oui. Et puis j'espère que tu vas aussi nous en parler. Parce que moi j'aime bien le regard extérieur. C'est ce dont j'ai besoin, le regard intérieur, je l'ai.
Pour passer rapidement en revue tout ce que tu as fait, qui tu es, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'auditrice, à l'auditeur ?
Je vais peut-être me concentrer sur ce que j'ai fait ici, ça sera peut-être plus simple. En fait, c'est la troisième année où je suis en résidence entre l'ancien palais épiscopal, où il y a le SCDD, et le musée. Et donc cette année, j'interviens directement dans les collections, avec juste une petite, voilà, trois vitrines en fait, où il y a uniquement mon travail et celui de mon fils. Et sinon, tout le reste a été disposé, dispatché dans les collections pour interpeller aussi le visiteur, quoi. Il y a un petit peu un jeu de cache-cache. Donc par exemple, je t'invite à regarder cette vitrine, là, que peut-être tu vas voir quelque chose qui t'interpelle.
Bah oui, je vois cette plaque qu'on dirait faite d'une autre matière.
Oui. Qui est partie intégrante du musée, en fait, c'est la maquette du site où ont été trouvés tous ces objets. Donc c'est pas du tout moi qui ai fait ni cet écran. Normalement, il y a une animation où on peut se promener à l'intérieur du site. Donc,
alors c'est ça.
Il y a ça notamment.
Donc ça, ce serait une poterie avec des clous.
Voilà, c'est un bol croqué. Donc on voit des clous, bol croqué, période de famine. Donc j'ai respecté un petit peu la logique des cartels du musée et aussi l'aspect des objets parce que en regardant un peu plus, on peut voir d'autres objets.
Mais ça, je connaissais. Ah, ça, donc c'était ces fameux disques durs éclatés, repris, vieillis.
Voilà, mais en fait, c'est un disque dur, ça avait malheureusement brûlé chez moi et mon ordinateur et mes disques durs étaient partis en fumée. Mais dans les décombres, j'ai retrouvé mon précieux disque dur qui est devenu une magnifique sculpture. Bon, les données sont à l'intérieur. Peut-être que dans quelques millions ou milliers d'années, on pourra lire les informations, je ne suis pas certain. Et donc là, j'ai spécifié antique mémoire, probablement antiquité tardive.
Voilà, donc la date, c'est l'antiquité tardive.
Tardive, très tardive. Ouais, c'est voilà, parce que puisque l'exposition s'appelle Archéologie contemporaine, voilà, il y a ce jeu. Tout moi, ce qui m'intéresse dans le regard du musée, c'est on regarde des bouts de poterie, des choses comme ça, et on imagine des Romains. On n'imagine rien du tout, en fait. On ne se rend pas compte que ces gens-là, ils avaient une vie. Ils déconnaient, ils festoyaient, ils faisaient comme nous, leur vie. Et je pense que le fait d'introduire un petit peu de notre réalité dans les vitrines du musée, ça peut-être provoque un regard différent sur ce qu'ont pu être les générations. Les centaines, les milliers, les millions, peut-être pas les millions, de générations qui nous ont précédés, parce que ils étaient purement vivants comme nous au présent, sauf que leur présent, il est passé maintenant.
Et Yann, quand tu parles d'archéologie contemporaine, en plus tu crées un espèce une problématique dans le cerveau, un bug.
Ah oui, mais il faut parce que en fait c'est ça, c'est l'idée, c'est de créer des étincelles sur les idées pour provoquer la réflexion. Et puis c'est vrai que la notion d'archéologie, archéo, donc c'est dans le passé, mais le contemporain en permanence il glisse dans le passé. Et il y a qu'à voir, on poste un truc sur un réseau social, par exemple, mais au bout de 5 minutes, voire en tout cas une journée, c'est de l'antiquité. Plus personne n'ira voir ce qu'on a posté hier. Ça, c'est postérité, ça n'existe plus maintenant. C'est quelque chose d'autre.
Pour ce qui est du disque dur qui a brûlé, effectivement, il est devenu instantanément une ancienneté, voilà, qui en plus est marquée d'une histoire, comme les Romains à Pompéi. Quand tu nous proposes ce bol croqué en disant période de famine, est-ce que ça correspondrait à une pièce qui aurait pu être réalisée? Ou qui a été réalisé, parce qu'il y a aussi ça dans le mouvement de l'archéologie, des personnes qui vont essayer de reproduire quelque chose pour voir si ça marche vraiment. Par exemple, on a trouvé cette pièce, est-elle bien un morceau de couteau ou une pointe de flèche? Il faut le tester en vrai, la reproduire donc. Est-ce que tu as eu cette démarche-là aussi?
Alors en fait, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que ce bol, en fait, ce bol précis, il est cru. Ça illustre le fait que, ben, il y a des manques parfois dans, ou des reconstitutions de objets pour, que pour une raison ou pour une autre on n'a pas, ou alors on met une reproduction. Mais celui-ci, en fait, est cru. Mais si on va vers cette vitrine-là, il y en a un qui a été cuit. Et il a été cuit avec une méthode purement primitive. En fait, exactement comme le faisaient les hommes préhistoriques au départ, en tout cas. Ils n'avaient pas de four. Pour les premières sculptures, c'était un petit peu jeté dans le feu. Alors, on se demande si ce n'était pas pour des raisons de divination ou de choses comme ça, parce que peut-être la terre n'était pas sèche. Ils jetaient ça dans le feu et puis ils voyaient à quoi ressemblaient les morceaux. Mais ils ont aussi fait cuire dans leur feu, moi comme je fais dans mon poêle avec mon fils, dans mon poêle à bois, hop, lui il en fait, il commence, moi je commence, on échange, on finit la sculpture de l'autre, on la fait cuire, et après elle prend, elle reste pendant des semaines dans le poêle, au bout d'un moment je la sors et c'est devenu comme une pièce d'antiquité, quoi, parce qu'elle a vraiment un aspect patiné, quoi. Et ce bol, donc je l'ai fait cuire dans un gros fût, alors peut-être pas aussi préhistorique qu'à l'époque, mais un gros bidon de 200 litres d'huile, là, enfin où il n'y avait plus d'huile, hein, et avec de la sciure, du bois, etc., toutes sortes de matériaux. Et donc j'ai mis un certain nombre de bols qui ont cuit pendant 3 jours en fumée, comme ça, et ce qui leur donne cet aspect vraiment dense, quoi.
Donc du coup, tu retrouves un peu des techniques finalement qui ont pu être employées à une période, mais sans pour autant tenter de reproduire des objets qui, eux, auraient existé.
Voilà, alors je ne suis pas archéologue, mon positionnement c'est celui d'artiste, donc avec un regard complètement extérieur, parce que habituellement je ne fais pas du tout ce genre de choses, je fais de la peinture, là j'expose en Chine des pièces digitales qui ont été produites à l'aide de l'intelligence artificielle, enfin, vraiment c'est où je fais de la gravure, de la photographie, enfin, de la vidéo, de la peinture, mais pas des pièces archéologiques. D'ailleurs je ne suis pas du tout sculpteur, mais en fait avec le temps je me suis rendu compte que de temps en temps il y avait un petit truc qui existait et ben voilà, je m'amuse avec les objets, donc en trois dimensions ça fait de la sculpture, on peut appeler ça comme ça, quoi.
Pourquoi t'as eu envie de faire ça?
Par le biais du hasard, parce qu'en fait j'étais peintre, donc je faisais de la peinture, donc j'étais allé à l'école, j'avais appris tout ça, puis je me suis dit, ah non, c'est de la décoration, moi je veux pas faire des trucs jolis pour mettre au mur, donc j'ai commencé à arrêter d'utiliser de la couleur, puis j'ai arrêté d'utiliser de la peinture pour utiliser des matériaux, puis à un moment je me suis dit, mais pourquoi pas aller directement jusqu'au réel? Donc je me suis dit, mais en fait la réalité est magnifique, il suffit de regarder, parce que c'est le regard qui compte. Finalement, les œuvres d'art, elles sont faites juste pour renvoyer à la réalité. En soi, après, il y a des choses conceptuelles purement, mais qui sont détachées du réel, mais en général, ça renvoie à la réalité. Et donc, j'ai commencé à faire ce que j'appelais des TV sets, des téléviseurs, où je prenais un objet, par exemple une vieille plaque grouillée, et je dessinais un écran, et je peignais le tour. Et ce qu'il fallait regarder, c'était ce que moi, je n'avais pas fait. C'était la rouille. Et donc, j'en ai fait aussi avec de l'herbe qui poussait à l'intérieur. Et puis, je me suis dit, tiens, puisque c'est un téléviseur, je vais prendre... J'ai pris une vieille palette, j'ai scié à l'arrache, j'ai balancé quelques clous à coups de marteau. Et puis, j'ai fait un espèce de téléviseur. Après j'ai fait une télécommande. Hein, ce téléviseur, c'était il y a très longtemps. Parce que maintenant, les téléviseurs, on n'a plus guère. Surtout que là, on voit, il y a 3 boutons, c'est 3 chaînes. Je l'ai retrouvé. Il a traversé les époques, donc comme ces objets un peu antiques. Et je l'ai bien restauré. Donc, il manquait des morceaux. J'ai repris un beau bois. Parce que quand on regarde les pièces, les poteries où il manque des morceaux, on a fait exprès de prendre un matériau un peu différent. pour pas tricher, qu'on voit que ça redonne l'intégrité de la forme de l'objet, mais il a été récupéré en morceaux, quoi. Donc j'ai fait un petit peu la même chose, j'ai restauré la pièce, je l'ai bien arrangée, et puis je l'ai mis dans une vitrine.
Et c'était parti. Et quand je te parlais tout à l'heure aussi du fait de reproduire des objets qui auraient déjà existé, beaucoup d'artistes vont faire ce travail de recherche, d'historien presque. Enfin, qu'est-ce que tu as documenté réellement au-delà du fantasque de ce qu'on attend aussi d'une œuvre d'art?
Ben, en fait, j'étais en résidence l'année dernière pendant 2 mois ici. C'est-à-dire que tous les jours,
vous voyez, c'est
du musée et jusqu'à la fermeture, je passais ma journée ici à regarder, visiter, prendre des photographies, faire des dessins, étudier, me renseigner, parce qu'il y a une bibliothèque aussi, donc je voyais des choses, j'avais... ça me titillait ma curiosité, où je posais des questions, parce que des fois j'avais un interlocuteur plein de savoir. Je me suis renseigné sur un petit peu, pas tous les objets, mais je connais assez bien le musée. En fait, je me suis rendu compte qu'on découvrait toujours des nouvelles choses, parce que c'est assez riche. Et tout a du sens. Par exemple, là, on voit un crâne de brebis doré à la feuille d'or. On peut se dire, ah oui, il fait ça pour rigoler. Ou là, en face, on voit un bélier, pareil, avec qui est doré. Là, c'est pas de la feuille d'or. Mais en fait, ce bélier-là, il vient d'un hôtel taurobolique parce qu'il y a eu le culte de Cybèle entre les 2e et 3e siècles qui était très vivant dans le Diois. Voilà. Et donc, ce qui m'a amené à... Puisque je proposais des petits animaux préhistoriques, imaginaires, on ne sait pas trop, mais ça renvoie à l'animalité et à ces cultes-là. Donc, tout a une raison d'être, en fait. Et il y a vraiment un dialogue entre les différentes pièces.
Ça, c'est ce que tu as voulu. Est-ce que le musée l'a compris, l'a vu aussi?
Alors, oui.
Le conservateur.
Alors, le conservateur, il faudra lui demander. Mais oui, en fait, il a un regard sur ces choses-là et il saisit la référence. C'est-à-dire que quand il voit le crâne et qu'en face, il reconnaît le bélier, il sait très bien que ça vient de l'hôtel taurobolique qui est dans la salle lapidaire là-bas. Puisque là, en fait, on commence un petit peu, pas par le début, parce que normalement, ça commence à la préhistoire là-haut. Et puis, on fait le tour à travers les âges. Et donc, moi, je suis intervenu dans les différentes vitrines, à travers toutes les époques.
Donc, je comprends que tu as déplacé des œuvres aussi.
Alors, en fait, ça, c'est un moulage. C'est-à-dire, comme j'étais en résidence, avec l'autorisation du conservateur, parce que j'ai utilisé des techniques qui endommageaient pas les pièces, j'ai fait des moulages, là, en l'occurrence, d'une partie d'un hôtel taurobolique. Et j'ai fait, alors, soit des moules, en béton, parce que j'ai utilisé pas mal de béton pour refaire des pièces qui étaient, enfin en béton en ciment, un peu punk, pour des pièces qui étaient en marbre, parce que je voulais aussi m'amuser avec ce décalage, quoi. Donc j'ai fait le moulage et des moules, et donc là il y a certaines fois où on voit le moule, des fois le moulage, mais les pièces, je les ai déplacées à un moment, peut-être je les ai eues en main, mais elles sont restées en place. J'ai pas déplacé d'une vitrine à l'autre. J'ai peut-être des fois fait un petit peu de place pour que tout soit scénographié avec l'aide et l'aval de la médiatrice et du conservateur. Mais j'ai pas déplacé purement de pièces. Surtout qu'il y en a qui sont impossibles à déplacer. Hein. Il y a des trucs monstrueux ici.
Oui, c'est vrai. Puisque tu le connais bien, ce musée, qu'est-ce qui t'a attiré déjà ici, et qu'est-ce que tu as envie d'en dire?
En fait, ce qui m'a tout de suite profondément séduit, c'est le côté un petit peu désuet du musée, parce que il y a des choses, beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais dans les années 60, 70, et on voit certains cartels qui ont été faits avec une règle, là, les règles où il y a des qui ont été détourées, où on peut avec un stylo tracer les lettres, ou alors avec une vieille machine à écrire, mais c'est à moitié effacé. Il y a des choses assez, assez étonnantes comme ça. Et moi, ça m'a bien plu, parce que autant dans les musées beaucoup plus établis, le Louvre, etc., puis bien d'autres qui sont en province aussi, on a cette scénographie très contemporaine qui met bien en valeur avec les éclairages parfaits. Mais ça nous... Ça, je ne sais pas comment dire. Ça donne un certain regard. Ici, on est déjà dans l'archéologie. Le musée en soi est une pièce archéologique, je trouve. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis, ça m'a vraiment donné envie ben voilà, de pouvoir réfléchir dessus et jouer avec, quoi.
Il a du sens pour toi à être là, à montrer ce qu'il montre?
Ah ben oui, mais ce musée il est extraordinaire parce qu'en fait c'est, on n'a pas du tout, comment dire, le sceptre de Nefertiti ou la coiffe de en fait c'est pas, c'est tous les objets qui sont ici sont des objets de la vie courante. Donc en fait ça concerne les individus, ça parle directement à l'humain. C'est pas quelque chose qui est hors vie, mais on est vraiment dans l'existence. Et c'est ça qui permet ce regard sur nous-mêmes aussi. Parce que ben on se pose des questions aussi. Bah oui, nous on n'a pas une lampe à huile, on éclaire différemment, mais il y a plein de choses qui nous renvoient aussi à des objets ou une réflexion sur les objets que qu'on a nous-mêmes. Moi qui m'a bien plu.
Alors donc dans cette pièce, il y a effectivement ces deux vitrines d'œuvres que tu disais avoir partagées avec ton fils. Pourquoi tu as mis ton fils dans cette galère?
Eh ben parce que ben, lui c'est un enfant, les enfants ils ont un regard sur la vie et notre monde qui nous habitués, pour nous tout est évident. Mais ben, un enfant par exemple qui arrive vers une vieille chaîne stéréo, il touche l'écran. Et il comprend pas pourquoi ça marche pas. Et il imagine pas une seule seconde que ce gros bouton rond, si on le tourne, ça augmente le volume. Il glisse sur l'écran. C'est un exemple un petit peu idiot que je donne, mais ce regard de l'enfant, en fait, moi, c'est un regard extérieur, moi. C'est un regard que j'ai conservé en tant qu'artiste. C'est-à-dire que je regarde le monde avec beaucoup d'amusement, comme si j'étais en train de me balader chez les Romains. Donc je regarde mes contemporains et je me dis, mais quelle folie! C'est quoi ce délire, quoi? Sur quelle planète? Et ils sont, nos contemporains, complètement les deux pieds dans leurs chaussures, persuadés que la vie c'est comme ça, que les choses sont comme... Ouais, c'est une évidence. Alors que non, ça n'a rien d'évident. Et pourquoi on fait comme on a toujours fait et on ne fait pas autrement? Pourquoi on n'essaye pas des choses différentes? Pourquoi on serait obligé de s'insérer dans les structures? Est-ce qu'on ne peut pas se faufiler à l'intérieur? Ouais, la liberté, je trouve ça me semble important. Ouais. Et donc, moi, je gardais ce regard d'enfant. Et les enfants sont super doués. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mon fils parce que, notamment au début, quand il était tout petit, vers 3 ans, je faisais de la peinture. Et la peinture, une fois que j'arrive au bout d'une séance de travail, bah, ça me prend une demi-heure, une heure, ou des fois 5 minutes. Il y a un moment où le pinceau se décolle de la toile. Alors là, je m'arrête, je me recule, je regarde, et soit je sens tout de suite ce qui va pas, soit je sais pas trop. Et là, donc j'interpellais, allez, à ton tour. Et il prenait un pinceau, et là, il y allait. Et après, il arrête. Pareil, il pose le pinceau, et là, je me dis, ah non, quand même, là, il a exagéré. Donc, je venais rectifier certaines choses, mettre en valeur certaines, mais il avait vraiment fait basculer quelque chose. Et après, c'était son tour, etc. Et en fait, en une journée, on a réalisé une peinture qui était magnifique, que moi, normalement, je mets un mois à faire, parce qu'il me faut la distance, il me faut le temps. Donc, ce regard des enfants, il est très précieux, il nous fait gagner beaucoup de temps. Vraiment, les artistes, les enfants, ils sont des grands artistes, ils ont vraiment un regard neuf. Et puis, le geste radical, quoi. Ils vont vite, hop, c'est fait. Ils vont pas s'embêter avec des petites fioritures pour faire joli, se perdre dans les détails. Non, ils vont. Alors, des fois, ils peuvent se perdre dans les détails, mais ça donne toujours des choses intéressantes. Hein.
Tu veux dire que c'est moins cérébral, du coup, comme geste?
Peut-être, oui, il est moins artificiellement cérébral. Disons qu'il est intelligent, mais il est peut-être pas effectivement cérébral dans le sens où on se triture les méninges pour se demander comment, pourquoi. Parce que, en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai travaillé très instinctivement dans le musée. C'est-à-dire que j'ai amené des choses. Au début, je savais pas forcément pourquoi. Puis après, je me dis, ben oui, bien sûr, j'ai amené ça parce que le culte à Cybèle, j'avais amené des vieilles souris d'ordinateur. Mais après, j'avais des tapettes à souris. Et alors, j'étais très triste à chaque fois qu'il y avait une souris qui se faisait tuer. Donc je me suis dit, la pauvre, et alors on les a enterrés, alors peut-être récupérer le petit squelette. Alors, et il y en a que j'ai moulé. Et donc j'ai fait des moulages, et j'avais, dans mes séries de sculptures qu'on avait faites avec mon fils, ces souris-là. Je me suis dit, la souris avec les souris. Et j'avais fait pareil avec un chat, donc il y a un squelette de chat, très beau, à monter soi-même. Enfin, il y a, en fait, à côté, il y a une salle où il y a des urnes funéraires, et on voit que il y avait aussi à manger des noyaux de pêche, Et puis, ben, y a pas mal de pharaons qui se sont fait enterrer avec leur chat. Tout ça a du sens, c'est une réflexion sur l'archéologie. Mais au départ, je l'ai amené, je ne savais pas exactement, je n'avais pas une idée précise. Petit à petit, ça prend sens. Et au moment de scénographier, de mettre en place, là, par contre, je réfléchis bien pour que les choses aient vraiment du sens par rapport aux autres vitrines. Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses se renvoient? Comme là, par exemple, on a une lampe à huile en forme de pied. Puis là, j'ai mis une sculpture d'un pied. Et là aussi, on a une brebis. Voilà, une brebis, donc là, qui est en fait un vase. Et voilà, donc ça justifiait pour moi le fait que y ait cette présence des crânes et des crânes de brebis ou du bélier. Enfin, tout est relié en fait.
Tu veux qu'on aille dans une autre salle pour faire une autre ambiance sonore?
Oui, surtout que l'ambiance sonore est magnifique. Il y a un parquet qui craque, les parquets sont. Il y a des boiseries somptueuses. Moi, vraiment, et puis ça sent bon et tout. Non, le musée est vraiment. Puis regarde, ces fonds rouges là sur les pièces. C'est. Ouais, moi, ça m'a beaucoup plu. Visuellement, je trouve ça vraiment très fort. C'est de la même façon que quand je me promène dans un supermarché, j'ai l'impression d'être dans une exposition de pop art. Là, dans le musée, il y a visuellement des choses qui me plaisent beaucoup. Vraiment, je trouve ça super flashy, là, les vieilles plaies sur ce fond de velours ou de pseudo-velours rouge. Je trouve ça très efficace.
Tu en as mis une, deux pièces, là ?
Alors, plusieurs même, mais très discrètement, comme d'habitude.
Parce que c'est dur.
Il y a des choses qui m'ont interpellé, parce que je voyais donc tout ça, c'est quand même très ancien, c'est l'époque romaine. Et j'arrivais ici et je vois une lettre, alors posée en travers déjà, où c'est écrit 14 Brumaire. Alors pour moi, le 14 Brumaire, c'est pas du tout l'époque romaine. Mais on voit écrit l'eau de monnaie découverte à Die lors de fouilles sur le plateau de Baume vers 1910-1912, époque romaine. Mais je ne sais pas pourquoi il y avait ça, donc moi je me suis dit, bah tiens, moi aussi je vais intervenir. Et donc on avait fait certaines empreintes de médailles, de pièces, ou de capsules de lait, ou de choses comme ça, avec mon fils toujours, et qui ont cette patine en fait, comme elles sont restées longtemps dans le poêle, on dirait vraiment que ça a été, ça sort de fouille quoi. Donc par exemple, il y a ça qui peut interpeller.
Ah, le fameux squelette.
Il y a tous les petits os minuscules, les griffes et tout. Alors, les griffes, voilà. Non, je ne sais plus où elle est. Là, il y a des petites dents. Il y a tous les petits osselets, etc. Ils sont. Et au début, je me suis dit, bah, tiens, je vais le reconstituer. Mais je suis toujours pris par le temps parce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Et finalement, je me suis dit, OK, je le pose là. Donc, j'ai classifié un petit peu les os. Mais je l'ai laissé comme ça. Et donc, j'ai mis comme titre « Chat romain en pièces détachées ». Alors, il n'est peut-être pas romain, mais ça, voilà, je me suis permis cette plaisanterie. À monter soi-même, période post-mortem tardive. Non pas post-moderne, mais post-mortem tardive.
À côté donc de souris d'ordinateur, encore extraite de ton incendie, et d'une vraie souris moulée alors.
Voilà, donc là, y a
tu veux dire, elle est vraiment encore dedans
Non. Non, parce que c'est le principe du moulage.
Figé.
Alors, j'ai parfois fait ce genre de choses, mais.
Tu disais que tu baladais dans la rue, tu regardes tes contemporains en te demandant qui c'est fou. Mais quand on t'écoute parler, on se demande qui c'est ce fou.
Plus on est de fou, plus on rit. Mais après, la folie, c'est quoi? Parce que moi, je peux expliquer tout. Voilà, je peux dire, bah oui, je m'amuse bien, d'accord, mais il y a du sens, je fais ça parce que ceci, il y a une démarche, je peux l'inscrire dans un corpus d'œuvre, je peux expliquer et valoriser tout ça.
Oui, que plein de gens ne peuvent pas expliquer pourquoi ils pensent comme ça et pourquoi ils font pareil que tout le monde.
Ouais, ça me paraît par contre étrange de faire pareil que tout le monde. Parce que il y a quand même une violence de moi qui ça m'inquiète toujours quand on fait tous la même chose. Ça m'est arrivé j'étais en Géorgie pour une exposition et il y avait eu l'invasion des Russes et les Géorgiens ils avaient réussi à les repousser. Et les Géorgiens étaient tous dans la rue en hurlant et tout, une grosse foule. Et il y avait cette énergie. Alors ils étaient très enthousiastes. C'était un petit peu comme je pense la libération en France. Mais moi ça m'a fait flipper. Hein. Je me suis dit oh là, ça a l'air dangereux. Il y a quelque chose de dangereux dans ces gens qui font tous pareil, qui sont tous d'accord. Ouais. Donc ouais, moi je trouve qu'il vaut mieux faire différemment. Pas systématiquement. Hein. Je fais pas ça juste par par désir de faire différemment, mais je me dis, ok, là, il y a ça qui existe, mais peut-être qu'on peut essayer autre chose, peut-être ça marche aussi, ou ça marche mieux, ou moins bien, en tout cas, je teste. Parce qu'il y a énormément de choses que j'ai, pas, que j'ai laissé tomber, hein, parce que ça marchait pas, c'était pas intéressant.
Tu sais pourquoi t'es venu à l'art ?
Mais j'avais pas le choix. Non, mais j'avais pas le choix. Bah, c'est-à-dire que comme j'ai le cerveau qui pétille un petit peu dans tous les sens, je savais que j'ai beaucoup d'idées et ça peut agacer certaines personnes, comme par exemple des professeurs ou des, enfin, non, des instituteurs, je sais plus, à la maternelle. Ben, hop, on te donne un, on donne aux enfants des crayons et tout pour qu'ils soient un peu calmes, quoi, qu'ils se taisent, hop, et ça les occupe. Donc, je me suis occupé de cette façon-là. Et puis, ben, des fois aussi, mes contemporains, ils étaient pas toujours disposés à parler, à faire quelque chose, ou alors ils se fatiguaient, alors que moi j'avais toujours de l'énergie, donc ben, j'ai continué tout seul. Et tout seul, ben, on fait de la peinture, des choses comme ça.
T'as compris que c'était ça l'échappatoire ?
Ben, pas évidemment. Ce sont les autres qui on me l'a dit. On m'a dit « Ah, mais tu dessines bien ». Bon, je dessine pas mieux que quelqu'un d'autre, sauf que ben, j'y passe plus de temps, je suis plus attentif, et donc forcément, au bout d'un moment, je maîtrise mieux. Mais comme à force qu'on me dise « Ah, ben, tu dessines bien », ben, je dis « Ok, bon, je dessine bien ». Et puis, surtout, j'ai vu que ça provoquait un genre d'admiration. Donc, je me dis ben, « ça fait plaisir ». Quand on me dit « Ah, tu dessines bien, c'est bien ben, », ça fait plaisir. Alors, je dis ben, « Voilà, ben, je vais continuer dans cette voie-là, puisqu'on m'encourage ». J'ai continué parce que j'y prends plaisir.
Et t'en vis ?
Ben, ça dépend des fois, ça dépend des mois. Ça dépend des mois, ça dépend de moi aussi. Parce que ben, ça prend énormément de temps. De temps en temps, je suis content de pouvoir fonctionner avec. Et j'ai l'ambition de le faire. Parce que là, effectivement, je suis en train de me dire, non, il faut que ça devienne systématique. Parce que ben, je fais aussi d'autres choses. J'organise des projets européens, etc. Ben, parce que pour gagner de l'argent, il faut faire toutes sortes de choses. Mais comme en tant qu'artiste, je fais toutes sortes de choses, ben, j'ai plus d'une corde à mon arc. Donc, je suis capable d'écrire des dossiers puisque je le fais des fois pour des demandes de financement ou des choses comme ça. Ben, là, je suis en train de m'occuper de ça pour... c'est-à-dire que je me dis, puisque je le fais pour obtenir des financements pour l'Europe, pour pouvoir avoir de l'argent, c'est un biais très détourné, ben, pourquoi ne pas le faire directement pour l'art et ben, trouver des financements plus de la DRAC, de l'Europe aussi, mais directement pour travailler, quoi. Et interpeller des musées aussi, puisque là, j'ai cette expérience qui a été assez enrichissante, fructueuse et puis concluante, je trouve. J'en ai fait un catalogue et puis avec ce catalogue je pense que je vais aller rencontrer aussi d'autres conservateurs, d'autres musées qui ont peut-être plus de moyens que celui de Dick.
Parce que cette question de savoir si les artistes vivent un peu de leur art, d'abord tout le monde se la pose et puis surtout on a l'impression, là, et on parle d'archéologie contemporaine, qu'au bout d'un moment ça va passer. Alors là, t'es en train de me dire, bah oui, effectivement, Adi, on pourrait finir par se lasser. Ouais. Il faut que ça tourne dans d'autres musées. Une fois que t'auras tourné dans plein de musées, enfin, jusqu'à quand une œuvre peut rester
Ah mais attends, parce que quand je dis ça,
c'est... Et continuer à te faire vivre.
Oui, ben, c'est-à-dire que pour ceux qui sont venus, les Happy Few qui sont venus l'année dernière à l'exposition que j'avais faite dans une autre salle et qui vont revenir cette année, ils pourront constater que ah, il y a certaines choses qu'ils avaient déjà vues, mais il y a énormément de choses qu'ils n'avaient pas vues, que j'avais pas montrées la dernière fois. Donc parce que si je retravaille dans un autre musée, je travaille in situ, donc je travaillerai avec d'autres pièces. Donc le travail, il n'aura rien à voir. Donc moi, je ne vais pas me lasser.
Et tu irais dans n'importe quel musée qui te dirait oui ? Par exemple, le musée des armées à Paris. Tu ferais des armes, des fausses armes, des faux trucs ou...
Je m'amuserais. Alors, toujours avec du sens, hein, parce que c'est important si on me dit mais c'est... non, c'est pas n'importe quoi. Regardez, réfléchissez, le AK-47. Enfin, je sais pas, ça devrait pas être ça, mais. dans tous les cas, en général, quand il y a un artiste qui rentre dans un musée, c'est-à-dire que le conservateur, il a l'esprit un peu ouvert. Sinon, ça reste un musée, donc pour des choses définitivement mortes. Même si tout ce que j'expose n'est pas forcément très vivant, mais. L'a été. Par exemple, cette disquette, voilà, qui illustre très bien mes jeunes années. Voilà. La mémoire, c'est important. C'est très important, la mémoire. Mais elle se perd. Et puis, il faut pouvoir la lire. C'est-à-dire qu'il y a beau, on a beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'on peut être très intelligent, on peut comprendre le monde très bien, mais ça demande un petit peu d'effort d'aller se documenter, d'aller voir ce qui a existé avant et ce que les autres ont pensé, parce que comme dit je ne sais quel grec, et il a absolument raison, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Si nous, toi, moi et les autres petits enfants, on était nés dans la forêt vierge, et sans parents, enfin pas sans parents, mais avec personne pour nous montrer des choses, on serait en train de courir à quatre pattes comme des loups. On l'a vu avec les enfants sauvages. Donc ce qui fait que...
Ça serait fait bouffer aussi.
Ah ben probablement, enfin ça dépend où. Voilà, donc en fait, ben, ce qui fait qu'on peut être nous-mêmes, c'est parce qu'on n'est pas nous-mêmes. On est les autres, on est tous les autres qui nous ont précédés. Et c'est pour ça que le musée a un intérêt. C'est que toutes ces époques-là, depuis la préhistoire, il y a eu un sacré boulot de fait. Et si on arrive, nous, à jongler avec nos téléphones et notre vie contemporaine, ben, c'est parce que les autres ont travaillé avant. Il ne faut pas penser qu'on a inventé l'eau chaude, hein. Elle existait déjà.
Il y a aussi des extérieurs à ce musée. Est-ce que ouais. Tu as mis des choses dehors ?
Oui. En extérieur, en plus, on a de la chance parce que j'ai mis quelque chose, mais pas tant que ça, parce qu'en plus, il y a des choses qui sont restées un petit peu dehors. Voilà, pardon.
Elle est bien violente, celle-là.
Allez, c'est une vraie porte. Il y a des choses qui sont restées pendant tout l'été, et ici... dehors, et puis qui était avant devant chez moi, qui traînait à l'extérieur, et que il y a certaines choses que j'ai replacées dans le jardin, mais finalement il n'y a que celle-ci là qui est restée, et les autres je les ai rentrées après les avoir laissées, donc elles ont cette patine un peu moussue qui
voilà, de la pièce qui est restée dehors,
voilà, qui est restée dehors. Et ben, comme toujours, j'ai beaucoup d'idées et puis d'enthousiasme dans le travail. J'ai encore pas mal de moulage à faire, et il va y avoir pendant tout l'hiver d'autres pièces qui vont rester là à mûrir. Et donc après, à voir avec le conservateur si ça sera là à l'ouverture du musée, parce que l'exposition sera décrochée. Mais peut-être qu'à l'extérieur, il pourrait y avoir des pièces, en tout cas, pendant l'hiver, il y a des chances qu'il y en ait quelques-unes qui puissent prendre la patine du temps. Quoi.
J'imagine que la plupart du temps, tu n'es pas là à accompagner, comme tu le fais avec moi, les gens qui rentrent dans le musée. Qu'est-ce que tu attends du public qui trouve tes œuvres ou qui ne s'en rendent pas compte, qui ne voient pas de différence voilà, qu'est-ce que tu as cherché
Ah, mais justement, c'est la curiosité. En général, parce que l'année dernière, comme j'avais une pièce entière avec mon travail, les gens visitaient tout le musée, et puis ils arrivaient dans une nouvelle pièce et ils regardaient, comme on regarde une vitrine, en passant vite. Et à un moment, ils s'arrêtaient, ils regardaient mieux, ils prenaient une mine un peu renfrognée, ils regardaient ailleurs, et puis ils commençaient à se poser des questions, puis discutaient avec eux. Mais ça, c'est... Et tout d'un coup, voilà, la discussion commençait et ils comprenaient ce qui s'était passé. Et au bout d'un moment, ils devinaient qu'effectivement, là, c'était autre chose. Et ils levaient le nez, ils voyaient l'affiche. Et puis, comme j'étais là en train de travailler, si vraiment ils avaient quelque chose, une question à poser, je leur expliquais. Quoi. Mais je pense que, comme le dit le conservateur, des fois, il est choqué parce qu'il y a quelque chose qui le heurte, mais parce qu'il y a dans la vitrine quelque chose qu'il n'avait pas remarqué et qui ressurgit, en fait. Et je pense que pour les visiteurs, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour la petite anecdote, il y avait une personne qui devait être du métier, d'après ce que j'ai compris, et qui est allé voir la médiatrice très en colère. « Non, mais c'est n'importe quoi, ce musée, regardez c'est pas du tout possible !» Et donc, elle a pu lui expliquer. Donc, ça se remarque, et les gens, en général, se rendent compte qu'il y a des choses, et puis s'amusent bien, parce que quand même, ils lisent le cartel. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis ces cartels un peu décalés, qui ont la forme d'un cartel de musée, mais quand on le lit, on comprend que là, il y a un peu de plaisanterie. Alors on peut se dire, tiens, ils sont amusants dans ce musée, ils font des plaisanteries, mais rapidement, je pense qu'on se rend compte que oui, il y a quelque chose qui se passe.
Et dans ta communication, telle que tu la ferais maintenant, quel est ton but, là ? Faire venir des gens, rendre les gens curieux, les inviter à se rendre un peu plus au musée de Die, parce que tu pourrais exposer effectivement dans un endroit qui ne serait que le tien.
Oui, absolument. Mais ça serait différent. En fait, je le fais aussi. Hein. Mais là, moi, j'ai envie d'attirer l'attention sur ces collections, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et Ouais, le musée pour moi a quelque chose de vivant et puis il m'interpelle beaucoup parce que en fait moi je peux bien parler hors contexte et dire des choses, mais c'est important pour moi d'être en face des œuvres, du travail et puis dans l'ambiance du musée pour pouvoir parler spécifiquement de certaines choses et puis d'avoir un regard extérieur. Et puis bah aussi pour rappeler que jeudi 21 septembre à 18h, il y a le vernissage où je ferai une visite guidée. Donc où là, on suivra l'ordre chronologique et je pourrai apporter des éléments de compréhension pour qu'on puisse bien saisir de quelle manière en fait les pièces qui peuvent paraître complètement incongrues que j'ai placées dans le musée en fait dialoguent vraiment avec celles qui sont dans les vitrines. Comme là, par exemple, on a ce...
Parle-nous de cette salle, parce qu'elle a une...
Salle lapidaire, ouais. Et avec des chapiteaux. Alors, il y a des choses monstrueuses, des toutes petites choses, une acoustique assez étonnante, une scénographie qui est dans son jus, hein, des années 70, avec vraiment, c'est assez amusant, avec notamment ces petits cartels qui ont été faits avec ces bandes de plastique, là, Dimo, ou je sais pas quoi, où on écrase pour pouvoir écrire, faire une belle typo. Et puis, ouais, y a vraiment toutes sortes de choses, quoi. On est avec des vitrines pour les marbres, des choses un peu plus précieuses. Donc là, moi, il y a des choses qui m'ont attiré dans ces vitrines-là, et c'est certaines de ces pièces-là que j'ai sorties pour faire des moulages, comme par exemple, là, on voit le buste qui est. Donc un
buste, à l'extérieur, ouais.
Voilà, un buste de Vénus qui est à l'extérieur. Donc moi j'en ai fait un moulage en béton un peu brut. Là aussi ce bassin d'une romaine, un drapé, mais qui est resté pendant tout l'hiver devant chez moi et puis quelques mois d'été là bien à l'ombre dans le jardin et qu'on retrouve ici sur ce chapiteau. Donc il fait pendant là, se côtoient, on peut les comparer. Et j'aime bien ce côté en fait du un peu brut du béton. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'avais fait jusqu'à présent. Je déteste ce matériau hein, pour la construction. Jamais j'utiliserai une chose pareille. Mais l'idée de faire des sculptures, alors les beaux-arts, etc., avec cette chose très brute, ça m'a bien intéressé. Et je suis juste en train de commencer là parce que j'ai vraiment envie d'y inclure du verre pilé, de faire toutes sortes de choses, notamment le buste. Là, alors on voit pas. C'est ça. Alors, on voit pas. En plus, la pièce est pas là. Elle est chez moi. Elle est tellement magnifique. C'est que ce buste donc il y a plus la tête, il y a pas les bras, mais il reste le torse de cette Vénus. En fait, a un dos magnifique. Vraiment, c'est ce que je trouve le plus beau. Et donc j'ai fait un moulage de ce dos. Je vais en faire un deuxième pour les mettre non pas dos à dos, mais face contre face pour qu'il y ait deux dos et comme ça obtenir un double dos. Et j'aime bien l'idée de contourner pour voir et puis tomber à nouveau sur un dos et on voit pas qui c'est. Il y a le côté un peu anonyme, bah comme ces sculptures qui n'ont plus de tête, quoi. Là, on voit aussi Cerbère, donc le chien des enfers, qui a un peu la gueule cassée. J'en ai fait un moulage et puis ça s'est un peu déformé et je lui ai mis la tête sur une autre sculpture. J'avais testé aussi sur le Christ, mais bon, c'était un petit peu peut-être blasphématoire. Puis ça tenait pas bien. Alors
Ah tiens, bah du coup, ça me donne envie de poser une question. Dans quelle mesure est-ce que tu serais OK pour détourner une œuvre et la rendre peut-être critiquable alors qu'elle l'était pas ? Tu viens de parler de blasphématoire.
Ouais, critiquable alors qu'elle l'était pas. Bah, il y a tellement de choses qui sont critiquables et on les a admises. Là, j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre.
Bah alors, pourquoi pas mettre la tête de Cerbère sur un Jésus ?
Mais il tenait pas bien. Il tenait pas bien et il était. Non, mais après j'ai pris une photo en le tenant comme ça et ça fait vraiment quelque chose de très beau. Je vais le poster sur mon compte Instagram qui est Yann YA2N _ qui est le tiret du 8, le grand tiret large du bas YLC. Donc Yann YA2N tiret du bas YLC. Sur Instagram, même si on n'a pas Instagram, on tape Instagram, on peut visiter comme ça. Et je vais le poster là. Et c'est assez rigolo parce qu'on voit effectivement, il y a le Christ, il y a les apôtres, et il a une tête de Cerbère. Alors on peut se demander dans quelle mesure, mais après, c'est justifiable aussi. C'est-à-dire que quand je dis un peu blasphématoire, j'aurais très bien pu le faire et ça m'aurait pas posé de problème parce que y a eu l'Inquisition. Je veux dire que les représentations et l'Église catholique a quand même commis des exactions qui vont complètement à l'encontre des principes chrétiens élémentaires. Donc moi, on peut pas m'attaquer alors que voilà, hein, on a fait pire. Faut d'abord regarder, comment on dit, avant de, on voit la poutre du voisin, je sais plus. Enfin, faut regarder dans son jardin d'abord. Enfin, il y a des expressions comme ça qui doivent pouvoir répondre à ce genre de choses. Mais oui, non, j'avais pas de soucis, mais ça fonctionnait moins bien. Là, je trouve, pouf, il est plus. Et puis, je voulais pas en multiplier aussi. J'avais pas envie d'en mettre partout. Je trouve que l'effet est plus frappant quand, c'est de temps en temps.
Par souci d'efficacité.
Oui, par souci d'efficacité, et puis aussi...
Pour qu'on les repère, peut-être.
Pour qu'on les repère, et puis pour plus de justesse. C'est-à-dire que si on en voit une, deux, trois... Si on en voit 100, en fait, finalement, on n'en regarde que 10. Et on sait très bien que dans une conférence, par exemple, on retient 10% de ce qui a été dit. Alors, si on pouvait directement donner ces 10%, tout le monde gagnerait du temps. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des choses partout et que finalement, on se dit « Oh non, mais il exagère, il en est partout, on ne voit plus rien. » j'ai travaillé parcimonieusement en essayant d'être le plus juste. J'ai bien réfléchi. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas posé des trucs à droite, à gauche, n'importe comment. J'ai essayé plein de choses. À chaque fois qu'on voit quelque chose qui est juste déposé comme ça, j'ai essayé aussi à d'autres endroits et je me suis dit non, là c'est là que c'est le plus judicieux, c'est là que ça fonctionne le mieux, c'est là que ça a le plus de sens. Ouais, parcimonieusement, ça me plaît bien. Puis comme ça laisse le regard aussi pour chercher. Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, si on regarde, on se dit ah, il a mis du béton. Non, c'est pas moi.
Pas celle-là.
Ah non, j'aurais pas osé. Alors celui qui a fait ça, mais vraiment,
c'est dégueulasse.
Il y a eu des, alors, je sais pas comment on dit ça, des sacrilèges. Voilà, des gens qui ont monté le musée, ils ont fait des choses d'une violence incroyable. Notamment à côté, il y a un vase. Alors il faut aller voir ça. Non, parce que ça c'est en soi une œuvre d'art contemporain, mais fait pas par un artiste. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'était même pas maçon, qui ne savait pas travailler, qui a pris donc ce magnifique... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une énorme vase citerne enterrée pour conserver les aliments, je crois.
Une ouillasse.
Et qui était en morceaux, qui était un peu cassé. Et il a pris les morceaux, alors des fois il s'est planté de morceaux, et il a fait un... Comment on appelle ça C'est les joints.
Ça a recollé avec.
Ça a recollé, voilà, avec du ciment dégueulasse. Ça déborde de partout. Il a même pas lissé après. Et il a fait ça avec un matériau qui est du ciment, quoi. Donc, c'est-à-dire que si on veut retirer ça, mais ça coûte un fric monstre. C'est pour ça que c'est comme ça. On le laisse comme ça parce que, il faudrait avoir un budget, je sais pas, de 45 000 euros pour que, défaire tout ça. Ils ont fait ça avec la Victoire de Samothrace. Ils l'avaient recollé un peu n'importe comment. Ils s'en sont rendu compte. Et là, au Louvre, ils ont des moyens. Donc, ils ont démonté. Il y a plein de gens qui ont travaillé dessus pour la remettre comme il faut. Mais dans le musée de Die, voilà, les moyens sont pas encore arrivés. Donc, ça reste comme ça. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une pièce que, voilà, un artiste sacrilège aurait pu faire. Moi, je ne me serais pas permis, mais il y en a peut-être qui l'auraient fait. Et sur un magnifique socle aussi, en béton. C'est assez incroyable, mais ça aussi, ça souligne le regard. On se pose des questions. Comment ils ont intégré, voilà, toutes les stèles, elles ont été scellées au sol.
Sur un parpaing.
Ce qui n'était pas indispensable, hein, parce que juste posé, là, ils ont rebouché le trou. Donc on peut comprendre, mais pas avec un matériau comme ça. Il y a de la chaux ou d'autres matériaux qui sont pas aussi violents et qui respectent un peu. Voilà. Hop, j'avais pas vu cette idée. Moi-même, je me surprends.
Attends, on avait posé une là, tu t'en rappelles.
Voilà, j'avais oublié. Ça, c'est une tête de
gargouille. Elle est particulièrement bien intégrée.
Ouais, ouais. Eh bien oui, parce qu'en fait, ce béton patiné ressemble, comme il est un peu brut, et puis je l'ai un petit peu travaillé, il ressemble vraiment à presque à s'y méprendre à de la pierre antique. Ancienne. Hein.
Bon, faut qu'on se quitte, Yann. Le temps imparti arrive au bout. Yann Le Crouennec en exposition d'archéologie contemporaine au musée de Die. Allez, on redit quelques rendez-vous, notamment jeudi alors.
Voilà, jeudi le 21 septembre à 18h, donc vernissage, visite guidée et présentation du catalogue, Inch'Allah, parce que il est censé arriver la veille. Hein, mais ça, on a toujours... on ne sait jamais. Et puis, ça sera en place jusqu'à la fermeture du musée pour cette année, donc le 30 septembre. Et c'est le moment ou jamais, parce que c'est une aventure qui a duré 3 ans, mais là, c'est fini après, hein, je ne serai plus là. Enfin, en tout cas, pas dans le musée.
Dans un autre.
Voilà, probablement dans un autre, ou ailleurs encore, comme là en ce moment, pour ceux qui ont la chance d'aller anciennement Pékin, Beijing, ils peuvent aller voir... exposition que je fais là-bas pour la semaine internationale du design à Pékin.
Merci à toi.
Merci à toi Baptiste et merci à Radio Divois vraiment de faire l'écho des, pas des savanes mais des...
C'est les seuls qui font de l'écho.
Ouais.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.